Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes géopolitologue et créateur du site internet Le Monde Décrypté. Et aujourd'hui, je vous propose que nous parlions de l'Ukraine en marge du sommet de l'OTAN qui a commencé ce mardi à Vilnius. Alors, le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France allait livrer des missiles de longue portée Scalp à l'Ukraine. Qu'est-ce que ça représente, ça, Gérard Vespierre?
C'est un complément, disons, absolument nécessaire à un armement ukrainien qui devient de plus en plus substantiel. Donc la France a décidé effectivement de livrer ces missiles qui sont lancés depuis des avions, donc ils seront lancés depuis des avions soit Sukhoi, soit MiG, appartenant à l'Ukraine, depuis le sol ukrainien. Ils ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres, donc ça permet de frapper l'arrière des forces russes présentes en Ukraine. Et ce sont des missiles identiques à ceux que la Grande-Bretagne a livrés sous le nom de Storm Shadow, deux noms pour un même matériel. Donc, approximativement, l'Ukraine va disposer, disons, d'ordre de grandeur de 100 de ces missiles qui sont à forte puissance de destruction.
Alors, suite à cette annonce d'Emmanuel Macron, la réaction du Kremlin ne s'est pas fait attendre hein, pour la Russie. La proposition de Macron, c'est une erreur qui, je cite, va forcer Moscou à prendre des contre-mesures dans le conflit. Alors, qu'est-ce que le Kremlin attend encore, j'ai envie de dire, par contre-mesure?
Écoutez, je pense qu'il y a surtout des mots derrière les mots. La Russie ne peut pas faire grand-chose quand il y a effectivement quelques dizaines ou une centaine de missiles qui arrivent en stock en Ukraine. Que voulez-vous qu'ils fassent de plus que ce qu'ils font actuellement, à savoir des frappes soit au hasard, soit sur des bâtiments, des installations civiles. Donc voilà, l'éternel discours de Moscou va se poursuivre et donc la même tactique mise en place, hélas, sur les civils va se poursuivre. Que la Grande-Bretagne et la France aient livré des missiles ou pas. Donc, voyez-vous, il ne faut pas prendre pour argent comptant cette logorée russe, ce discours tout à fait archétypé.
Finalement, on a un peu du mal à comprendre, à situer où on en est finalement dans le conflit russo-ukrainien qui dure maintenant depuis un moment. On parlait à un moment donné de contre-offensive ukrainienne, puis il y a eu la rébellion avortée de Wagner. On en est où, Gérard Vespierre, dans le conflit ?
Mais écoutez, on en est dans une position où, à mon avis, on attendait le 6 juin 1944 et on a oublié qu'avant le 6 juin 1944, il y a eu le mois d'août 1942, à savoir un débarquement de 8000 soldats majoritairement canadiens à Dieppe. Donc il fallait étudier, il fallait comprendre le dispositif du mur de l'Atlantique construit par les Allemands. Et bien là, on est à peu près dans le même, je dirais, profil. Les petites contre-attaques lancées par les Ukrainiens en 4 ou 5 points du front de 800 à 900 kilomètres destinées à comprendre, après avoir vu très bien depuis l'espace ce qu'est le dispositif russe en termes de canaux, de tranchées et de points de résistance. Il s'agit de voir comment le commandement réagit, comment les hommes réagissent, et à la suite de ça, eh bien, ils devraient pouvoir décider d'une contre-attaque beaucoup plus importante, car soit en termes d'effectifs, soit en termes de matériel, ce que les Ukrainiens ont mis en œuvre depuis quelques semaines, depuis à peu près un mois, est relativement faible, 10-15% de ce qu'ils peuvent faire. Donc il est toujours possible qu'ils lancent une contre-attaque majeure suite à l'enseignement tiré de ce qui vient de se passer et aussi en s'appuyant sur les armements nouveaux qu'ils ont reçus. Et en ce qui concerne donc Prigogine, une interprétation, une analyse plus exactement factuelle de ces événements. La mise de côté de Prigogine a été décidée par le Kremlin depuis de nombreux mois. Souvenons-nous des cris de Prigogine quand l'armée russe ne voulait pas ou ne lui livrait pas de munitions. Ça voulait dire qu'il se rendait compte qu'il était dans la main de l'armée russe. Sans munitions, il ne peut rien faire. Et le 15 mai, donc il y a très peu de temps, à peine 2 mois, le ministère de la Défense a dit maintenant les soldats, des milices doivent s'enregistrer auprès du ministère de la Défense pour être payés par le ministère de la Défense. Donc ça voulait dire que Prigogine allait être déshabillé de ses 25-30 000 hommes. Donc voilà comment les choses se sont passées. C'est une initiative à la base du pouvoir politique et militaire du Kremlin de faire en sorte que Wagner, sous ce nom ou sous un autre, rentre dans le rang. L'armée russe ne peut pas se payer le luxe d'avoir, disons, un opposant en termes de communication, même si ses troupes ont vraiment un apport réel dans la bataille et dans les succès que l'armée russe a eu à Bakhmout, mais il s'agit de reconstituer une unité. Donc cette décision a été prise au Kremlin depuis quelques semaines, et le soi-disant soulèvement de Prigogine était, selon moi, si on suit ce cheminement, eh bien une mise en scène. Je ne peux pas croire que Prigogine, qui a les pieds par terre, avait envisagé avec 25 000 hommes de pouvoir aller jusqu'au Kremlin, distant de 1 000 kilomètres, et une armée donc russe de plus d'un million d'hommes. Ce n'est pas possible. Donc c'est une opération organisée pour qu'il puisse avoir une sortie par le haut, parce qu'il fait partie du système. Il a été adoubé par Poutine il y a 20 ans. Il est devenu un oligarque avec des ressources financières venant de l'État, puisqu'il nourrit l'armée, il nourrit par la restauration, donc les écoles, les hôpitaux, etc., etc. Donc il dispose d'énormes moyens financiers, et on lui demande des royalties là, sur cela, et ça le sert aussi à payer les frais et les opérations de Wagner. Donc c'est compris dans le prix des repas, si je puis dire, pour être plus clair. Donc voilà, il était un homme lige du Kremlin, et le Kremlin lui a dit, bon, maintenant tu as rendu service, mais il faut être de côté.
Mmh. Pour en revenir au sommet de l'OTAN à Vilnius, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a atterri il y a peu de temps à Vilnius. Il sera donc aussi présent, notamment pour y rencontrer son homologue américain Joe Biden. Et dans la foulée, Volodymyr Zelensky dénonce l'indécision et la faiblesse de l'OTAN qui encourage, selon lui, la terreur russe. On imagine que Volodymyr Zelensky fait référence au fait que ça ne soit pas envisageable d'intégrer pour l'Ukraine actuellement l'Alliance tant qu'il y a encore la guerre. Mais est-ce que finalement l'Ukraine peut s'attendre à une invitation à rejoindre l'OTAN malgré tout? Et si oui, sous quelles conditions?
Écoutez, le schéma est déjà arrêté. Il va y avoir un conseil OTAN-Ukraine qui va être mis en place, un comité donc qui va jalonner l'évolution à la fois de l'équipement, à la fois donc des dotations en armes, des façons, des process, comme l'on dit, donc administratifs et militaires, d'homogénéisation entre l'Ukraine et les procédures OTAN. Donc voilà, il y a un dispositif qui va être mis en place sur plusieurs années et de façon à remplacer progressivement tout l'armement russe par de l'armement occidental aux normes OTAN. Donc finalement, sans être effectivement injuré juridiquement dans l'OTAN, l'Ukraine va avoir le même équipement à terme que les armées occidentales, la même façon de s'en servir. Donc l'assistance et l'appui des autres puissances juridiquement otaniennes, eh bien, sera complètement acquise, comme il l'est maintenant effectivement en place. Donc, finalement, la Russie va obtenir tout à fait l'opposé de son objectif. Elle souhaitait annexer l'Ukraine, faire en sorte que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. Alors, de point de vue juridique, comme je viens de le dire, elle ne le sera pas de façon formelle et pour plusieurs années, tant qu'il y aura une occupation russe, à mon avis. Mais par contre, de fait, par l'armement, par l'appui qui a été prouvé depuis bientôt 18 mois, eh bien, effectivement, l'assistance, la présence de l'OTAN est totalement donc acquise à l'opposé du souhait de Moscou, comme on a vu l'arrivée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, ce qui est aussi à l'opposé des intérêts de Moscou.
Merci beaucoup Gérard Vespierre pour vos précieux éclairages. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes géopolitologue et fondateur du site internet lemondedécrypté.com que j'invite comme chaque fois nos auditeurs à aller consulter. Merci beaucoup, à très bientôt.
Eh bien, écoutez, bonne fin de journée et merci à vous. Au revoir.